Bonsoir tout le monde et merci de nous laisser un petit moment pour parler justement de notre participation au cycle imaginaire des futurs possibles. Donc on y a pris part l'année passée au cours de la saison 2020-2021. C'était organisé par le Théâtre de Vidi et l'Université de Lausanne. Et donc dans le cadre de ce second volet imaginaire des futurs possibles, un groupe interdisciplinaire de chercheurs, chercheuses et d'artistes, hein, donc des chercheurs, chercheuses en lettres et sciences sociales, des metteurs, metteuses en scène, des comédiens, comédiennes et danseuses. On s'est réunis régulièrement au cours d'une année sous la conduite de la philosophe Vinciane Després, sous l'accompagnement, on pourrait dire plutôt pour être un peu plus horizontal, et autour de la thématique « Enquêter avec d'autres êtres ». Et en effet, comme on l'a déjà dit en introduction de cette soirée, on s'est rendu compte très rapidement, et même c'était le parti pris dès le début, en fait, de mettre en pratique les similarités dans nos approches, dans nos méthodologies, puisque que ce soit dans les processus créatifs artistiques ou dans la recherche académique, en fait, on est tous et toutes en quête. Et ce soir, on va vous présenter deux des résultats qui sont nés, qu'on avait présentés au cours d'une journée de valorisation. Journée de visibilisation de la recherche, en fait, et de la création artistique, enfin de cette rencontre fructueuse.
Voilà, donc moi, à cette occasion, je me suis associée à la danseuse Ruth Child et on a collaboré autour de la disparition des hippocampes. Et donc, en fait, cet animal, il s'est révélé passionnant à saisir à travers la double perspective de l'écologie, donc de ma spécialité, et puis de l'art vivant, puis en particulier de la danse, qui était la spécialité de Ruth. Et bon, tout d'abord, la disparition de l'hippocampe, elle est symptomatique de la surexploitation puis de la pollution, en fait, des régions littorales. Et donc, elle est intéressante parce qu'elle évoque une problématique qui est actuelle, qui est urgente. Et ces photos, elles sont intéressantes parce qu'elles fonctionnent sous forme de litotes. Ça veut dire qu'elles montrent peu, mais elles disent beaucoup. Et donc, on a essayé de travailler d'abord sur cette photo-là. Et on a décidé, dans un premier temps, d'essayer de se mettre à la place de cet hippocampe qui se fait imposer des nouvelles modalités d'existence et voir ce que ça provoque chez nous. Et c'était la première étape du travail, mais c'était un peu anecdotique et plutôt de l'ordre du comique. Et l'hippocampe, il nous a aussi intéressés et puis il nous a aussi réunis parce que c'est justement en écologie, il y a des espèces clés de voûte qui sont structurantes pour l'écosystème et il y a d'autres espèces, par exemple le merlu. Et l'hippocampe, malgré qu'il soit peut-être un peu plus esthétiquement apprécié, il est, c'est pas une espèce clé de voûte, il n'est pas considéré comme essentiel. Et puis du coup, ce faisant, sa disparition, elle est peu médiatisée et ça questionne l'invisibilité tragique de ce qui disparaît sans faire de bruit, parce que c'est catégorisé non essentiel par soit des scientifiques, soit d'autres personnes. Et comme on était dans le contexte de la crise sanitaire, avec tous les artistes qui se sont fait catégoriser unanimement de non essentiel, ça nous a porté en fait dans ce contexte-là, puis ça rappelle toujours le merlu et la biodiversité non charismatique. Et on a trouvé intéressant en fait de tirer en filigrane ce parallèle avec le milieu artistique. Mais en fait, l'installation que nous on a créée à la fin, donc pour le 1er mai, ça s'est focalisé plutôt sur le travail, un travail sur la mémoire de l'hippocampe. Et donc, nous, on s'est demandé, cet animal qui disparaît, comment s'en rappeler, comment ne jamais oublier les hippocampes. Et donc, on a exhumé le lien absurde entre cet animal et puis la partie de notre cerveau qui porte le même nom. Donc, l'hippocampe cérébral. Et l'homonymie, elle existe parce qu'en fait, à la base, ils ont juste la même forme. Mais on s'est dit, similarité de forme, similarité de fonction, peut-être. Et on a été chercher quelle était la fonction de l'hippocampe cérébral, qui est en fait le siège de la mémoire événementielle et puis de la navigation spatiale. Et donc, il y a des recherches récentes d'un laboratoire en Allemagne qui montrent que la danse stimule particulièrement l'hippocampe. Enfin, toutes les activités qui engagent le corps dans l'espace et qui exigent une série de mouvements, en fait, ça stimule l'hippocampe, mais la danse particulièrement avec les mouvements chorégraphiques, etc., ça permet vraiment de freiner l'érosion de notre capacité à se souvenir. Et donc, autrement dit, la danse, elle augmente notre capacité à se remémorer des choses, dont l'hippocampe. Et donc, on a proposé que chacun se filme en dansant l'hippocampe, en dansant ce que lui évoque l'hippocampe, ce que lui fait faire le souvenir de l'hippocampe, afin de faire continuer à vivre l'animal par nous, par nos corps qui se meuvent dans l'espace, par nos cerveaux qui se développent aussi, et finalement, le faire continuer à vivre par l'archivage de la série de vidéos des personnes qui dansent l'hippocampe et qu'on a récoltées à cette occasion et qui sont encore disponibles sur le site du Théâtre de Vidi, si ça vous intéresse. Et donc, on va vous lancer ici un petit extrait de la vidéo originale qui est de Jean Chamel, qui a collaboré avec nous sur cette installation. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo ? Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est les mâles qui portent les enfants chez les hippocampes, d'où la référence. Et puis pour l'esthétique, on s'est basé en fait sur les films documentaires de Jean Parlevé qui a fait un film documentaire sur l'hippocampe et on a essayé de recréer un peu l'esthétique de l'époque. Et voilà, pour conclure, c'est de cette manière qu'on a tenté de faire le lien entre la pratique artistique de Ruth et puis ma pratique de recherche en proposant un récit qui est basé sur un diagnostic et des découvertes scientifiques mais qui s'en détache pour aller plus loin, ou bien du moins pour aller autre part, et puis stimuler d'autres futurs possibles, malgré l'irrévocabilité du diagnostic de cette disparition, et puis voilà, d'aller dans la danse, la poésie, la fiction, ou bien même l'absurde.
Donc on va pouvoir tous danser l'hippocampe.
C'est maintenant.
Donc de mon côté, je vais essayer de vous faire une petite généalogie de la forme qu'on a présentée avec Thomas pour la clôture du cycle des futurs possibles. C'est un espèce de compte-rendu ethnographique à partir de mes notes et audio enregistrées pendant le processus de création. Donc Thomas, si jamais tu le sauras, j'ai enregistré quelques-unes de nos discussions au passage. Dis-moi. Tu m'avais vu faire, alors c'est bien. Ce que je peux dire, c'est que le moment fondateur pour moi, ça a été d'avoir entendu Thomas parler de ses enseignements à la manufacture, où il expliquait son travail avec des étudiants et des étudiants qui visaient à réincarner des performances d'actrices et acteurs passés à partir d'enregistrements vidéo. Et ce travail-là m'avait vraiment interrogée parce qu'il semblait impliquer des questions d'attention aux détails de la performance, de notation pour pouvoir reproduire, de mise en intelligibilité, toutes questions qui, une fois qu'on s'y penche, deviennent en fait nettement moins évidentes, puisque en effet, comment reproduire une performance à l'identique, que ce soit une performance chaque soir qui soit plus ou moins la même, ou encore ici, un exercice un peu plus délicat qui est de reproduire la performance de quelqu'un d'autre. Donc, sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour le faire? Sur quels outils on peut compter? Et à quoi est-ce qu'on va prêter attention? Et à quoi est-ce qu'on va donner sens dans cette espèce de maelstrom qui compose finalement une performance humaine? Donc, c'était des questions qui pouvaient être très proches de celles qui sont aussi centrales de la méthodologie d'analyse et de transcription des interactions que je mobilise de mon côté. Une méthodologie qui s'appelle, et comme ça vous le saurez, l'analyse conversationnelle multimodale. Mais de mon côté, au moment où Thomas a parlé de ces éléments-là, j'étais encore sur une restitution finalement assez simple du travail collectif, avec un montage de vidéos prises pendant les préparations. Tout ça est devenu plus évident sous les instigations de plusieurs personnes, dont Claire de Ribeaupierre, qui était curieuse du processus de transcription que j'avais mentionné, et peut-être qui trouvait que simplement passer un montage vidéo, c'était pas forcément la chose la plus intéressante qu'on puisse faire, et qu'on pouvait très certainement faire beaucoup mieux. Et, donc c'était nécessaire et utile de passer par ce moment-là. Donc ça a été difficile d'abord parce que de mon côté, c'était hors de question en fait de proposer une forme explicative. Je n'avais pas du tout envie de constituer un dialogue avec d'un côté ceux qui savent, dont j'aurais fait partie, et de l'autre ceux qui viennent pour qu'on leur explique ou qu'on leur fasse comprendre quelque chose. Et donc l'idée, c'était de trouver une forme qui fasse voir sans pour autant passer par l'explication et qui laisse chacun et chacune libre de s'en saisir à sa façon. C'est donc devenu une injonction créatrice puisque c'est ce qui nous a poussé à travailler ensemble avec Thomas pour trouver des solutions qui nous permettent de montrer ce travail qu'on pouvait considérer comme commun, celui de noter finement une performance, que ce soit pour la reproduire par Thomas, ou de noter finement une interaction pour l'analyser de mon côté à partir d'une vidéo de préparation. Donc c'est clairement ce passage à une forme sensible et expérientielle qui a été très productif pour penser à la fois des modes de faire une démonstration qui ne passent pas par l'articulation logique d'un raisonnement et des façons de faire vivre des concepts, de les rendre vivants de façon appliquée avec un décalage productif qui déplace ce qu'on en sait et la façon dont on les appréhende habituellement. Notamment ici la notion de multimodal, donc le fait qu'on ait plusieurs modalités d'expression à notre portée, qu'on combine la voix, le geste, et qui se combine également avec celle de l'autre. Et vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, qui est un extrait de la performance complète qui dure, elle, une dizaine de minutes, la façon dont on s'est débrouillé avec Thomas pour faire cette mise en commun, avec les transcriptions en arrière-fond, qui fonctionnent un peu comme une partition, et puis Thomas qui les incarne, lui, sur scène, avec à chaque fois une couche supplémentaire de modalités d'expression. Voilà, vous pouvez lancer la vidéo.
Ouais. Ok. Et qu'est-ce que t'en penses par rapport à... Si on imagine que donc les costumes font partie un peu de la scène, les perruques, on les met comment? On les met sur des têtes ou on les pose juste... Comment on les dispose? Ouais. Parce que normalement, on les met sur les têtes. Ouais. C'est d'habitude, il y a des têtes, et sinon, à part des têtes, qu'est-ce sur quoi on pose des perruques? Que des têtes. D'accord. Que sur des têtes. Non, c'est ça, je savais pas. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à... Si on imagine que donc, les costumes font partie un peu de la scène, les perruques, on les met comment? On les met sur des têtes ou on les pose juste... Comment on les dispose Ouais. Parce que normalement, on les met sur des têtes. C'est d'habitude, il y a des têtes, et sinon, par des têtes, qu'est-ce sur quoi on pose des perruques? Que des têtes? Que sur des têtes? Non, ça ne s'achète pas. Ok. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à... Si on imagine que donc, les costumes font partie un peu de la scène, des perruques, on les met comment? On les met sur des têtes ou on les pose juste... Comment on les dispose Ouais. C'est normalement, on les met sur des têtes. Ouais. C'est d'habitude, il y a des têtes, et sinon, par des têtes, qu'est-ce sur quoi on pose des perruques Que des têtes Qu'est-ce sur des têtes Non, c'est ça, je n'avais pas.
Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à... Si on imagine que donc, ces costumes font partie un peu de la scène, ces perruques, on les met comment? On les met sur les têtes ou on les pose juste comment on les dispose vrai?
C'est un peu
ouais. Parce que normalement, on les met sur les têtes.
Oui. On peut trouver des têtes aussi, d'un côté. On peut
trouver des têtes. C'est habitué à les têtes et sinon, à part les têtes, qu'est-ce que tu peux poser les perruques? Que des têtes.
Voilà.